L'instant média avec ma Sonia. Vous êtes là, Sonia ?
Non, je ne suis pas votre Sonia.
Oh, non. Bon, allez, à demain.
Non. Salut, Augustin.
Amis téléspectateurs, vous...
J'ai entendu parler d'infos.
Il est 9h41 et voilà, Augustin m'a rendu ma liberté. C'est le début de l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Les années de plomb désignent la spirale terroriste des années 70, dans laquelle plongea notamment l'Italie. Enlèvements et attentats associés dans la mémoire collective à une radicalisation des factions d'extrême gauche. C'est pourtant l'empreinte de l'extrême droite italienne et même des Américains que l'on retrouve derrière ces assassinats. Tragique machination dont on n'a arrêté aucun coupable. Oui, il y a une chape de plomb sur les années de plomb. Bonjour Nicolas Glimois.
Bonjour.
Votre film s'inscrit dans une série que France 5 a intitulée Intox, focus sur des grands épisodes de manipulation de l'opinion. On y vient. Après l'actu des médias, et Amaël Guiton de Libération. Salut Amaël.
Salut.
Eh bien voilà, Amaël, ce matin, les insultes au prisme de l'intelligence artificielle. Grosse patate, on va voir si je serai sanctionnée ou pas.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Voilà, après avoir traité Amaël de grosse patate...
Je ne vais pas m'en formaliser.
Mais non, mais j'attends la sanction de Google, en fait. 139 euros, ce montant, c'est celui que vous coûtera la redevance audiovisuelle dont vous vous acquitterez l'année prochaine pour continuer à nous écouter et à regarder France Télé. 2 euros de plus qu'en 2016, cette hausse est supérieure à l'inflation, mais ça permet de boucler le budget sans avoir à taxer les ordinateurs ou les tablettes sur lesquels vous êtes pourtant de plus en plus nombreux à suivre des émissions. Pour remettre cela dans le contexte, c'est-à-dire dans le budget du ministère de la Culture, sachez que pour la première fois, il dépasse les 10 milliards d'euros et le seuil symbolique des 1% du budget de l'État. Côté médias, France Télévisions et Arte seront les grandes bénéficiaires. Elles recevront à elles de 48 millions d'euros supplémentaires, dont 30 millions devront être réinvestis dans la création d'œuvres audiovisuelles. Et là, on fait plaisir à notre invité qui fait du documentaire. Et le documentaire, c'est de la création originale. France 24 reçoit 7,5 millions d'euros pour financer sa nouvelle version en espagnol, qui est pour bientôt. Quant à nos marchands de journaux, souligne le Figaro, ils seront systématiquement exonérés de la taxe professionnelle. Eh bien oui, j'ai ajouté une petite larme d'émotion, de brushing peroxydé et de nez refait dans ce monde de brut. Sachez que pour la première fois depuis 17 ans, TF1 ne diffusera pas Les Feux de l'Amour, son feuilleton quotidien d'après le JT de 13h. Ce sera pendant les vacances de la Toussaint, ça ne durera que quelques jours. Il s'en va et ensuite il revient. Rassurez-vous, je dis ça parce que les fans sont tombés littéralement pamoison depuis hier. CBS a diffusé le 1er septembre dernier le 11 000e épisode des Feux de l'Amour. Il y a donc encore de quoi faire. Alors, Amaël Guiton, donc, les commentaires sur les sites d'info ont rapidement tourné, ça tout le monde le sait, tout le monde l'a constaté, tout le monde l'a vécu, au déversoir et donc au cauchemar des équipes qui sont supposées les modérer. Beaucoup de sites, d'ailleurs, ont choisi carrément de fermer les robinets.
Hein. Bah oui, c'est le cas de CNN, de Reuters, Bloomberg, The Daily Dot, à l'étranger, en France, l'AFP a fait la même chose. Et même Rue 89, hein, dont c'était l'ADN, les avait fermés temporairement l'année dernière.
Voilà, et puis ça a été accompagné d'un édito extrêmement lyrique en disant c'était notre utopie de construire l'actualité avec l'internaute et puis c'est un échec. Alors Google a décidé de sauver l'internet grâce à l'intelligence artificielle en commençant par le site du New York Times.
Oui, ils sont 14 modérateurs à évaluer 11 000 commentaires par jour en moyenne sur le site du quotidien américain. Et bien désormais, ils sont aidés par Conversation AI, AI pour intelligence artificielle, un algorithme développé par Jigsaw qui est une filiale du géant du net. Conversation AI a été nourri avec un stock de 17 millions de commentaires postés sur le site du New York Times et évalués par son équipe, plus 130 000 extraits de discussions sur Wikipédia, là aussi évalués par des humains. Et à partir de ça, l'algorithme apprend à détecter les insultes, les propos haineux, le harcèlement. Le New York Times est le premier à l'utiliser. Les gens de Wikipédia réfléchissent encore à ce qu'ils pourraient en faire. Mais évidemment, chez Google, on espère bien que le précédent va faire des petits.
Alors, on voudrait comprendre comment ça marche. Comment grosse patate devient soit de l'ironie, soit une méchanceté au prisme de l'intelligence artificielle?
Et ben, d'après Google, le taux de réussite est de 92%. Un journaliste du site d'info Wired l'a testé. Alors, il a constaté que l'algorithme est déjà capable de prendre en compte le contexte. Un smiley, par exemple. Donc, si grosse patate est accompagnée d'un smiley, a priori, ça va passer.
Un smiley, c'est ces petits bonshommes, voilà. Ces petites représentations qui soit pleurent, soit tous, soit sourit, soit vous aime, et que vous rajoutez dans tous vos textos et vos mails.
Mais bon, à ce stade, c'est pas parfait. Par exemple, selon qu'on écrit « je vais t'arracher les cheveux un par un » ou « je vais lui arracher les cheveux un par un », Conversation AI ne réagit pas de la même manière. Dans le deuxième cas, quand la menace n'est pas directement adressée à une personne, le logiciel attribue un score d'attaque entre guillemets très faible, alors que dans le fond, c'est quand même la même chose. Et à contrario, une phrase comme « Donald Trump est un imbécile » écope d'un score très élevé de 99 sur 100. Mais ce que disent les concepteurs de l'algorithme, c'est que plus il sera utilisé, plus il apprendra, plus il sera efficace.
Ça pose quand même beaucoup de questions sur Donald Trump et sur l'intelligence artificielle.
Bah oui, la plus évidente, c'est le risque de passer d'une aide à la décision, parce que pour le moment, c'est quand même toujours les modérateurs du New York Times qui tranchent, hein, à la fin, à la décision elle-même. La détection automatisée, les géants du net l'utilisent déjà pour les images pédopornographiques sur Facebook, par exemple, mais pour le reste, ils sont censés travailler que sur signalement des utilisateurs. Et déjà, il y a des dommages collatéraux. On a le cas, par exemple, de la fameuse petite fille au napalm, hein, dont la photo avait été censurée
voilà,
au début du mois.
Une photo de guerre historique, voilà. Un document, une archive, et hop.
Bon, sans compter les comptes Twitter qui sont régulièrement fermés, y compris quand c'est des journalistes, par exemple. Parce que les limites à la liberté d'expression, c'est quand même une affaire très complexe. Est-ce qu'on a envie de confier ça à des machines? Jusqu'à quel point? Et comme le dit très bien l'article de Wired, à quoi ça ressemblerait un Internet où quelqu'un qui écrirait « Donald Trump est un imbécile » serait immédiatement bloqué par une intelligence artificielle?
Ça donnerait un Internet très poli.
Voilà, voilà.
C'est ça. Merci beaucoup, Amaël.
Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Escalade italienne. 1969, la Piazza Fontana, bombe, 17 morts, 88 blessés. 1970, un train, 6 morts. 1973, 4 morts, 52 blessés. 1974, encore un train, 12 morts. La manif de Braccia, 9 morts, 102 blessés. 1980, attentat à la gare de Bologne, jour de départ des grandes vacances, 85 morts, 200 blessés. Voici le texte qu'avait écrit Pier Paolo Pasolini, cinéaste italien, assassiné en 1975.
Je sais. Je connais les noms des responsables de l'attentat de Milan du 12 décembre 1969. Je connais les noms des responsables des attentats de Brescia et des premiers mois de 1974. Je connais les noms qui composent le sommet de la pyramide. Je connais les noms de ceux qui ont géré la stratégie de l'attention. Je le sais, car je suis un intellectuel et mon métier est d'analyser les faits. Je sais, mais je n'ai pas les preuves, ni même les indices.
Nicolas Glimois, votre film « Les années de plomb », une tragédie italienne, nous plonge dans un mystère qui demeure entier. Pier Paolo Pasolini n'a pas pu parler, mais au final, les Italiens savent très peu de choses. Peut-être qu'ils savent, mais que, en tout cas, les choses ne sont pas dites, les choses ne sont pas faites, et la justice n'a jamais pu intervenir. Qu'est-ce qu'on a appelé la stratégie de la tension durant ces années-là?
La stratégie de la tension, ça a été pour une partie de l'appareil d'État italien, notamment de ses services de renseignement, une partie de l'appareil militaire, de faire des attentats qu'on appelait sous fausse bannière, de faire croire qu'il y avait une possibilité de renversement du régime par des forces d'extrême gauche, et d'appeler à une réaction d'ordre. Qui permettrait justement de faire évoluer le régime vers un régime autoritaire. Comme
c'est
ça, avait
comme
pu
le dit très bien de vos témoins, c'est déstabiliser l'ordre public pour stabiliser l'ordre politique.
Exactement.
Et évidemment, la clé là-dedans, c'est l'état d'urgence.
C'est l'état d'urgence et c'est cette volonté de vivre dans une espèce de guerre civile un petit peu larvée pour appeler des réactions. Alors des réactions qui ne sont pas venues parce que, in fine, la démocratie italienne a tenu. Mais c'était une démocratie un peu particulière, on le voit bien maintenant, qui était ce que l'un de nos interlocuteurs a appelé une démocratie à souveraineté limitée. Puisque l'Italie avait une position géopolitique, géographique bien particulière et des équilibres politiques compliqué avec un parti communiste très fort en période de guerre froide. Et le principal allié, qui est aussi le principal bailleur de fonds de l'Italie, les Américains, ont, jusqu'en tout cas à la fin des années 70, été extrêmement interventionnistes dans la vie politique italienne.
Voilà. Et évidemment, on a un Nixon et un Kissinger qui ne veulent pas du Parti communiste italien, ne serait-ce qu'au pouvoir, mais en tout cas même pas aux portes du pouvoir, et en tout cas qu'il n'ait pas de représentation parlementaire. Et on rappelle que la position géographique de l'Italie est très particulière. Hein. Elle est aux portes de l'Europe de l'Est, évidemment.
Exactement, elle est aux portes du rideau de fer, en fait. Puisque...
Alors, vous le racontez dès le début de votre film qui s'ouvre sur l'attentat de la Piazza Fontana. Je l'ai dit, une bombe, 17 morts, 88 blessés, c'était à Milan. On désigne immédiatement un coupable, c'est-à-dire du côté des anarchistes. Il y aura des arrestations. Vous avez un témoin qui est très impressionnant, qui s'appelle Vincenzo Vicingena, qui est une des légendes noires des années de plomb. C'est le seul terroriste d'extrême droite à avoir reconnu ses crimes. Vous l'avez filmé à la prison de Milan. Lui, il a dit les choses. Il a dit les choses en cour d'assises.
Oui, c'est le seul condamné. Enfin, les exécutants matériels de l'attentat de Bologne également quelques années plus tard ont été condamnés. Mais Vincenzo Vinciguerra, c'est un personnage assez fascinant. Hein, je ne vous cache pas. Ça fait 36 ans qu'il est en prison. Lui a reconnu ses crimes. Il a commis un attentat en 1972 qui a quand même débouché sur la mort de 3 carabiniers. Et c'est un fasciste, il le dit aujourd'hui. Moi, je suis un vrai fasciste.
C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'a pas rompu avec l'idéologie fasciste de ces années-là. En revanche, il a dénoncé le fait que les factions d'extrême droite aient été mises à l'époque au service des services de renseignement italiens, voire des Américains.
Exactement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dès l'âge de 13 ou 14 ans, il est militant dans des mouvements fascistes. D'ailleurs, il va faire la tournée des principaux mouvements, notamment un mouvement qui est très important dans cette histoire qui s'appelle Ordre Nouveau, Ordine Nuovo. Et il va se rendre compte au bout d'un moment que, en fait, il est manipulé et que ces mouvements-là ne sont pas ce qu'il appellerait lui de ses voeux, le modèle fasciste rêver, son modèle à lui, mais qu'ils sont plutôt les instruments au service d'une cause qui est celle d'une partie de l'appareil d'État italien, eh bien, qui est au service des intérêts américains ou d'autres intérêts financiers, en tout cas, qui ne correspondent pas, lui, à son idéologie.
Alors, le prince noir, après la légende noire, c'est le prince Borghese, qui était commandant des troupes d'élite de l'armée mussolinienne. Vous le rappelez très précisément dans votre film, c'est-à-dire que les Américains, en reprenant la main sur l'Italie après la défaite, ont recyclé tous les cadres de l'État mussolinien qui pullulent dans l'administration italienne à tous les niveaux après la guerre. On écoute le prince Borghese.
Aujourd'hui, je vous parle contre des Italiens quand je vous dis, par exemple, que un des ennemis les plus grands que nous avons dans notre pays, c'est les communistes, c'est des Italiens. Et ça ne me gêne pas du tout de dire que c'est des ennemis. Ça ne me gêne pas du tout de vous dire que si on pouvait les exterminer, je serais très content parce que ça libérerait notre pays des ennemis qui y vivent et qui sont une menace perpétuelle.
Voilà. Alors, on entend le prince Borghese. Il y aurait dû avoir un coup d'État de l'extrême droite, vous l'avez dit, sur le modèle des colonels en Grèce. Il n'aura pas lieu. Il n'empêche que le colonel Borghese fait partie de ces têtes de pont armées qui sont en collusion avec les Américains. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que Gladio ?
Alors, Gladio, après la guerre... En effet, l'Italie devient un pays à souveraineté limitée qui ne fait pas vraiment... la catharsis un petit peu qu'avait fait l'Allemagne éventuellement. Mmh. C'est-à-dire qu'en effet, comme vous l'avez dit, sont recyclées toutes les troupes mussoliniennes, sont recyclées notamment dans l'armée, la police et les services de renseignement. Et les Américains, notamment par le biais de leurs services de renseignement, par la CIA, estiment que l'Italie est un pays clé qui pourrait basculer du côté communiste. Donc pas question d'abord qu'il en soit ainsi. Et si jamais l'armée rouge venait à envahir l'Italie, il faut qu'on organise une armée secrète, une armée parallèle, qui puisse faire action de guérilla. Donc ça veut dire entretenir des troupes, mettre des caches d'armes ici ou là, et donc organiser ce qu'on appelle les stay behind, ce qui s'appelle les rester derrière en fait. Et ça va être une stratégie qui va être à l'œuvre dans pas mal de pays européens. Et en Italie, elle sera un peu plus importante qu'ailleurs, étant donné
Gladio,
ses positions.
Gladio, ça signifie le glaive. Hein.
Voilà, on va l'appeler Gladio, le glaive, qui sera ce mouvement qui est animé par des généraux italiens d'ailleurs, et qui est financé par les États-Unis.
Alors, c'est financé par les États-Unis. Ce qui est passionnant dans cette histoire, hein, c'est que à chaque étape de cette histoire, on brouille les pistes. C'est-à-dire que dès le départ, il y a des magistrats qui n'ont pas cru hein, à la thèse de l'attentat anarchiste et des agissements de l'extrême gauche, qui ont voulu poursuivre leurs enquêtes et leurs instructions. Donc, à tous les niveaux, il y a eu entrave à la justice, à tous les niveaux, il y a eu brouillage des pistes. Vous désignez une loge maçonnique très puissante, Propaganda Due, dont l'ombre est absolument partout. Et pourtant, et ça c'est important, pourtant, il n'empêche que ces années-là ont été aussi marquées par l'activisme d'extrême gauche, que ces années-là ont aussi porté le fer ensanglanté de l'extrême gauche qui a basculé dans la lutte armée.
Bien sûr, c'est la gageure de faire une synthèse comme ça en 52 minutes d'ailleurs, puisqu'évidemment, on s'intéresse aux origines, à la genèse de ces années de plomb, mais tout ça s'inscrit dans un contexte très fort d'une extrême gauche très très forte et qui bascule dans la lutte armée au mi-temps des années 70 et qui va devenir qui va connaître une dérive criminelle, c'est-à-dire au début il y a la volonté de porter le fer contre cet État italien qui incarne l'État des multinationales, comme ils disaient un petit peu dans leur discours, et qui à partir il y a une volonté stratégique, notamment du mouvement qui va devenir le mouvement clé des Brigades Rouges, des actions criminelles.
Ce sont les Brigades Rouges qui ont exécuté par balle Aldo Moro, le Premier ministre. On vous diffuse une archive poignante qui est à la fin de votre film. Écoutez les Brigades Rouges appeler la gendarmerie pour annoncer la mort d'Aldo Moro, le premier ministre italien. Il est enlevé et séquestré depuis 2 mois.
Pronto? È il professor Franco Fritta? E chi parla? Brigate Rosse. Lei deve comunicare alla famiglia
sì.
Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro
sì.
In via Caetani.
Via?
Caetani. Va bene?
Sì. Devo telefonare io alla famiglia?
No, dovrebbe andare personalmente.
E non posso.
Non può? Dovrebbe per forza.
Per cortesia, no.
Mi dispiace.
Lei dovrebbe andare dalla famiglia dell'onorevole Moro, perché l'ultima volontà dell'onorevole è questa, cioè di comunicare alla famiglia, perché la famiglia doveva riavere il suo corpo.
Voilà, c'est très poignant. On l'a diffusé dans sa langue originale. On vous l'a pas doublé. Les Brigades Rouges annoncent là où il faut trouver le corps, demandent aux gendarmes d'y aller. Le gendarme fond en larmes au téléphone et dit, mais je ne peux pas. Et les Brigades Rouges disent, si, il faut y aller. C'était la dernière volonté d'Aldo Moro. Vous expliquez très bien dans votre film que derrière l'enlèvement, la séquestration et l'exécution d'Aldo Moro, il pourrait y avoir aussi la main de l'extrême droite. En tout cas, une alliance d'intérêts, quelque chose de très pragmatique où les intérêts se rejoignent à ce moment-là.
Mais c'est là qu'on arrive dans le mystère, la nébuleuse, et puis une plaie ouverte terrible pour l'Italie. Enfin, faut se rappeler ce qu'est Aldo Moro. Aldo Moro, je ne sais pas, je vais faire un compte. C'est comme si le Premier ministre français aujourd'hui était arrêté 55 jours en captivité puis retrouvé dans une voiture.
Aldo Moro était sur le point de signer un accord historique avec les communistes
exactement.
Et de les faire entrer dans la gauche parlementaire.
Et ça, personne n'en voulait. Toujours pas l'extrême droite, toujours pas la loge P2 et tous ses intérêts atlantistes, on va dire très orthodoxes, mais surtout pas l'extrême gauche également, pour qui c'était évidemment une impossibilité, une trahison complète du Parti communiste. Donc là, il y a une conjonction d'intérêts un peu étonnante et beaucoup de mystères autour d'Aldo Moro. Et on sait aussi qu'Aldo Moro avait rédigé un mémorial en captivité, c'est-à-dire des mémoires, une espèce de testament politique et civil, dans lequel il parlait de Gladio. Aujourd'hui, Gladio, on en parle 50 ans après, mais c'était un secret absolu. Il n'était absolument pas possible qu'Aldo Moro dévoile certaines choses.
Et ce manuscrit a disparu.
Et ce manuscrit, on n'en a jamais retrouvé les pages originales.
Merci beaucoup, Nicolas Glimois. Alors, Intox, c'est la série documentaire que propose en ce moment France 5. C'est tous les dimanches soirs et les années de plomb. C'est dimanche prochain à 22h30.